Les Couserannais, approchant de la soixantaine et ayant passé leur enfance à Toulouse, se rappellent encore avec émotion de la Micheline. Cet attourail rouge et crème était un véritable symbole de liberté, puisqu'il représentait à leurs yeux les escapades à montagne, les baignades dans les torrents, les odeurs de foin et de mouchines des mois de juillet croulant sous la canicule. Bien sûr, il y avait le retour vers la métropole régionale, les wagons surchargés où régnaient les fragrances alimentaires. Avec la fin des vacances, certains ramenaient des poules qui caquetaient bruyamment durant tout le voyage. Et puis, il y avait la joie de vivre des étudiants qui regagnaient leur cité universitaire. C'était le moment des plaisanteries plus ou moins féroces et des chants de carabins et autres chansons paillardes dans des wagons comblés. Les voyageurs ne protestaient pas, ils avaient un sourire bienveillant. Et oui, le train, le rail, empruntait à cette époque la fameuse voie ferrée Boussin-Saint-Giron, longue de 33 kilomètres. Cette voie, ouverte en 1866, fut fermée à jamais le 28 septembre 1969. Dans les années 1990, un collectif Saint-Gironnais demanda en vain la réouverture de la ligne. Vers 2007, un collectif, les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées, firent circuler une pétition suite à la diminution des correspondances entre Saint-Giron et Boussens par autocar, à une époque marquée, selon eux, par l'augmentation du cadencement des lignes trans-express régionaux en Midi-Pyrénées. Cette association alla jusqu'à proposer la restauration de la voie ferrée Saint-Giron-Boussens. Jusqu'en septembre 1969, la Micheline arrivait en gare de Saint-Giron. Cet autorail léger, dont les roues étaient équipées de pneus spéciaux, fut mis au point par Michelin dans les années 30. Bien sûr, le nom de Micheline a été donné par la suite, abusivement, mais de façon familière, à tous les autorails. Mais revenons aux origines de la vie ferroviaire du Couserans. Il faut savoir que les premières voies du chemin de fer firent leur apparition en France en 1832. À partir de 1842, un premier plan de réseau national grande ligne est établi à partir de Paris. 24 ans après, le train arrivait dans la capitale couseranaise. La compagnie du Midi obtint en 1863 la concession de la ligne de Saint-Giron se raccordant à Boussens à la transversale Toulouse-Montrégeau. La ligne fut ouverte en février 1866. Le tracé de la ligne remontait le cours du Salade sur sa rive gauche. Les principales gares étaient Mazères-sur-Salatte, Salis-du-Salatte, Isse-Manetouille, puis Prades-Bonrepos et Saint-Giron en Ariège. Pour la petite histoire, les fortes pluies de juin 1875 provoquèrent une crue du Salatte et des inondations. La plateforme de la voie ferrée fut inondée en plusieurs endroits. La circulation ne put être rétablie qu'au mois d'août suivant. Le développement économique de Saint-Giron et de ses papeteries entraîna dès le début du XIXe siècle, des modifications urbaines. Les fortifications démolies se transformèrent en boulevards. Dès la fin du XIXe, Saint-Giron était relié à la métropole toulousaine par son infrastructure ferroviaire, la reliant au réseau national Toulouse-Bayonne. Face à ce développement, les édiles municipaux eurent peur d'engorger les rues de Saint-Giron. C'est ainsi que la gare de Saint-Giron fut construite en 1866 au nord de la ville et au nord du confluent entre le Lesse et le Salat. En choisissant cet emplacement relativement éloigné du centre, le gros du trafic, en relation avec la liaison avec Toulouse, se faisait en dehors de l'espace urbanisé. Les liaisons locales ne furent pas oubliées. Une ligne fut construite pour atteindre la préfecture de Foix. Nous l'avons vu récemment. En détail, une autre dut remonter la vallée du Lesse vers Castillon. Il existait en effet à la gare un quai d'échange du train métrique électrifié qui venait de Castillon en Couserans. Il ne faut pas oublier l'importance économique des mines de fer du Haut-Biros. Pour mémoire, une voie métrique est une voie ferrée dont l'écartement des rails est étroit. Et puis, il y avait le problème de la voie ferrée prévue pour remonter la vallée du Salate. Cette voie devait même franchir les Pyrénées pour atteindre l'Espagne par le tunnel de Salo. Des maisons de garde-barrière furent édifiées, des tunnels furent construits. En fait, cette voie ne dépassa jamais l'implantation prévue pour la gare internationale Oost-Sext, gare qui, vous le savez bien, ne fut jamais construite. Nous allons revenir sur l'histoire de cette voie ferrée inachevée. Pendant de longues années, la France et l'Espagne n'ont été réunies par voie ferrée que par les deux lignes de la côte atlantique par Hendaye et de la côte méditerranéenne par Cerbère, contournant l'une et l'autre la chaîne des Pyrénées à ses extrémités. D'ailleurs, ces lignes restent toujours les itinéraires les plus importants et les plus utilisés entre les deux pays. Toutefois, dès 1865, lors du grand développement des voies ferrées et avant même l'ouverture de la ligne de Portbou, il a paru nécessaire de prévoir d'autres voies de liaison à travers la chaîne des Pyrénées. Une commission mixte franco-espagnole, constituée à cet effet, entreprit l'étude des traversées possibles de la chaîne. 12 projets de traversées furent examinés par cette commission entre 1865 et 1904. Vers 1881, on était tombé à peu près d'accord pour les tracer par le Somport et par Salo. Mais c'est en 1904 seulement qu'une convention internationale fixa les tracés de 3 transpyrénéens. Par le Somport, tracé numéro 4, par le port de Salo, tracé numéro 10, et le Puy-Morens, tracé numéro 11. Le projet Toulouse-Lérida par Salo était appelé le transpyrénéen central. L'itinéraire allait de Toulouse à Saint-Girons, Sorte, Trimpe et Lérida par les vallées de la Garonne et du Salat en France, puis un souterrain international sous le port de Salo, une gare internationale en Espagne à la sortie du tunnel de Salo, puis vallée de la Noguera Cepalieresa et du Segre en Espagne. Les discussions et péripéties diplomatiques et économiques durèrent en fait de 1853 à 1904, soit 51 ans, un demi-siècle. Comme nous l'avions vu récemment, à propos du tunnel de Salo, les rapports entre les autorités espagnoles et françaises eurent une influence négative sur le projet transfrontalier de Salo. Attitude hostile des militaires d'abord, qui n'avaient pas oublié les invasions napoléoniennes du début du XIXe siècle et l'occupation meurtrière de Saragosse par les troupes napoléoniennes. Au début des années 1850, les Aragonais réclamèrent haut et fort une voie ferrée les reliant à la France, alors que les Français portaient tous leurs efforts sur les voies côtières d'Hendaye et Cerbère. Lorsque la guerre franco-prussienne éclate en 1870, l'attitude jugée pro-germanique de l'Espagne provoqua une violente tension diplomatique entre les deux pays, tension exacerbée en outre par les rivalités des empires coloniaux et en particulier du Maroc. Les autorités espagnoles suspectaient la France de vouloir établir, par le biais des lignes transpyrénéennes, des projets de communication rapide vers le Maroc. Le Maroc était à l'époque et jusqu'à la fin du XIXe siècle l'objet des convoitises des deux États. Une fois la paix revenue et les tensions apaisées, les pourparlers reprirent en 1879. Ils durèrent jusqu'en 1898. En 1904, la Paméen del Cassé, ministre des Affaires étrangères, réussit à obtenir la reprise des négociations sur les voies transpyrénéennes. Et là, tout se complique, vu que les deux pays ne peuvent se mettre d'accord, vu que les relevés cartographiques sont divergents et se révèlent pour le moins approximatifs. Du côté français, l'unanimité était loin d'être atteinte. Deux projets de tracé étaient alors en concurrence. L'un passait par la vallée du Salat, l'autre, plus à l'est, suivait la vallée de l'Ariège pour rejoindre Puigcerdà et Barcelone par le col de Puy-Morens ou Lérida par le col d'Envalira et les vallées andorranes. On assista alors à de violents débats entre partisans des deux projets. Il faut dire que la politique, les réseaux d'influence, allaient jouer un rôle supérieur aux considérations morphologiques géologiques. Le tunnel de Salo devait passer sous le Mont Rouge et la Sierra de Mitranes, géographiquement plus centrale, mais et qui avait d'ailleurs la préférence à la Chambre de commerce de Toulouse. Mais Théophile Del Cassé, député de Foix, mais aussi ministre des Affaires étrangères, usa de toute son influence, comble de malchance pour le cousin. Ainsi, au terme de ces joutes politico-économiques, les partisans de l'axe empruntant la vallée de l'Ariège eurent gain de cause. Mais essayons d'y voir plus clair. En 1904, le même Théophile Del Cassé, toujours ministre des Affaires étrangères, signa une convention franco-espagnole prévoyant la construction de 3 tunnels, dont celui de Salo, Dax et les Thermes. Selon les termes de cette convention, les voies devaient être construites. Et là, chers auditeurs, je vous laisse juge. Une clause, uniquement applicable au tracé Toulouse-Lérida par Saint-Girons, stipulait que les travaux côté français ne commenceraient que lorsque la voie ferrée reliant Lérida à Sorte serait terminée. En fait, les travaux côté espagnol furent effectués dans les délais. Mais par manque de chance ou par volonté politique, n'ayons pas mauvais esprit, les travaux s'arrêtèrent à la Pobla de Ségur, soit à quelques kilomètres au sud de Sort. La France saisit ce prétexte pour ne pas poursuivre les travaux. Je vous rappelle que le tronçon Saint-Girons-Oust était en bonne voie. Le chantier fut arrêté à jamais. La politique peut s'avérer parfois pour le moins troublante dans ses arguments géostratégiques et économiques. Selon certains auteurs, l'arrêt côté espagnol pourrait s'expliquer par une intervention de la Banque mondiale en 1963 qui refusait d'accorder des crédits au chemin de fer espagnol secondaire, tous les fonds étant destinés aux grandes lignes. Il faut dire qu'à cette époque, la France avait depuis longtemps renoncé à ce projet, débouchant pour certains politiques sur une zone espagnole pauvre et dépeuplée. Nous connaissons la suite des événements. 1969, fin de la Micheline Saint-Girons-Boussens. Jusqu'à la fin des années 70, les trains de marchandises amenaient sur Saint-Girons le bois destiné aux papeteries de l'Edard. Puis, la concurrence du transport routier aidant, tout le trafic ferroviaire vers l'Edard fut terminé. Cette usine de l'Edard, fleuron de l'industrie Couseran, qui ferma elle aussi ses portes en 2008. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.